Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Les islams de France.
En général, le français moyen ignore tout l'islam. Les jugements qu'on entend porter sur l'islam sont ou sommaires à l'excès, ou très superficiels, rarement objectifs, et souvent encore obscurcis par le souvenir latent du grand conflit qui, à l'époque des croisades, mit aux prises la croix et le croissant. Cette religion, toujours vivace et en pleine évolution, soulève de nos jours une foule de problèmes politiques et sociaux. Elle ne saurait donc laisser indifférent aucun de ceux qui s'intéressent au déroulement de l'histoire, encore moins nous Français, qui abritons sous les plis de notre drapeau 40 millions de musulmans qui ont toujours exercé une influence sérieuse sur nos destinées.
Celui qui parlait, Ahmed Achlaf, participait en 1950 aux émissions de langue arabe de la Radio Nationale, il y en avait à l'époque, et il parlait ici surtout de l'outre-mer. C'est dans les limites de l'ancienne métropole que vivent aujourd'hui les musulmans. Les trois quarts d'entre eux ont la nationalité française, l'ignorance demeure néanmoins. Paradoxalement, le brutal décrochage du catholicisme a contribué à cette ignorance. Au milieu des années 1960, alors qu'il était encore au zénith, les chrétiens étaient invités par leurs autorités à la conversion intérieure, à l'engagement social, et ils ont commencé à choisir entre leurs obligations extérieures, et en peu d'années, la pratique s'est effondrée. Les Français, persuadés pour beaucoup que les religions suivaient nécessairement une pente descendante, n'ont pas imaginé à l'instant que l'islam connaîtrait une évolution inverse. Les musulmans, eux, se sont constitués autour de la pratique que délaissaient les catholiques. Ils ont même ajouté aux cinq piliers de l'islam des traditions en fait nouvelles, le voile, le halal. Et autour de ces contraintes consenties s'est développée toute une casuistique. Qu'est-ce qui est licite, pas licite, halal, pas halal? Mais l'extension de cette pratique dissimule mal des divergences grandissantes. Le spectre, en fait, est devenu très large, d'un côté occupant plus de la moitié de l'espace. Le groupe majoritaire, mais discret, qui vit sa religion sans développer un projet de société concurrent de la République, à l'extrême, d'autres tendances, qui surenchérissent sur le marché de la norme et ou font de l'islam une idéologie politique, l'islamisme. La constitution d'un islam français, balbutiante depuis 30 ans, en devient d'autant plus urgente.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Hakim El-Karoui, bonjour.
Bonjour.
Vous avez, entre autres, fondé un club qui s'appelle 21e siècle pour la promotion de la diversité. Nous, Français et musulmans, nous sommes prêts à assumer nos responsabilités. C'est une devise.
C'est un engagement, c'est une feuille de route. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on est arrivé dans un moment de tension à l'intérieur de la société française où, en fait, la collectivité nationale attend que les musulmans se mobilisent. Pas pour les stigmatiser, pas pour les victimiser, mais pour leur dire on ne comprend pas que face à la radicalisation ou à la montée du fondamentalisme chez vous, vous ne fassiez rien. Et moi, mon mouvement, il est celui de, je pense, beaucoup de gens qui pensaient que la religion était une affaire privée. Et je pense que les attentats en ont fait une affaire publique.
Vous avez publié, piloté, une enquête de l'Institut Montaigne en 2016, qui est à la base d'un livre que vous publiez maintenant aux éditions Gallimard, l'islam, religion française. Je ne vais pas présenter tout votre pédigré, le père tunisien, venu en 58 faire des études en France, devenu professeur à la Sorbonne, la mère Lorraine, est professeur de mathématiques financières à l'école polytechnique. Non, je vais dire quand même que vous êtes agrégé de géographie. Alors, un agrégé de géographie, ça s'est parlé démographie. Si on regarde l'évolution dans le temps du nombre des musulmans, les statistiques sont organisées de telle façon en France que n'apparaissent pas clairement les confessions religieuses.
Alors déjà, quand on écoute le journaliste de tout à l'heure, il parlait de 40 millions de musulmans en France. J'ai une bonne nouvelle pour les auditeurs, le nombre de musulmans a beaucoup baissé.
Oui, mais là c'était des musulmans outre-mer.
Oui, voilà, bon, c'était du temps de la colonisation.
On n'imaginait pas arriver nécessairement tous en France.
Non, en métropole, et d'ailleurs dans les dom-toms, il y a des musulmans à Mayotte, hein. Il n'y en a pratiquement pas ailleurs, un petit peu à La Réunion. Un petit peu à La Réunion quand même. On estime qu'on est à 5,5, 6, avec des débats sur qu'est-ce que c'est qu'un musulman. Nous, dans l'enquête, ce qu'on a fait, c'est que d'abord on a interrogé 15 000 personnes pour trouver 1000 musulmans et on a posé deux questions. Est-ce que vous êtes musulman? Enfin d'ailleurs, quelle est votre religion et quelle est la religion de vos parents? Ce qui permettait d'avoir des données sur des gens qui sortent de la religion, musulmane en l'occurrence, puisque on pouvait avoir des parents musulmans et dire qu'on n'était plus musulman, et à l'inverse, avoir des données sur les convertis.
Donc il y a moins d'entrants que de sortants.
Il y a deux fois plus de sortants que d'entrants. On est persuadé qu'il y a une dynamique de conversion qui est énorme. C'est un peu comme l'immigration. On voit toujours les immigrés, on voit jamais les immigrés qui repartent. Ben, on voit toujours les musulmans ou les convertis à l'islam. On oublie qu'il y a une bonne partie d'entre eux, 15%, qui ont des parents musulmans et qui ne se disent plus musulmans.
Un démographe s'intéresse aux indices de fécondité. Alors, on imagine généralement dans l'opinion française que l'indice de fécondité des femmes musulmanes est nettement plus élevé que la moyenne nationale.
Oui, là aussi, c'est en fait non. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a très rapidement un alignement de la fécondité des femmes immigrées hein, en général sur la fécondité des Françaises, avec concernant les musulmans des différences. Les Maghrébins, en fait, ou les Maghrébines, s'alignent très vite. C'est moins le cas des femmes qui viennent d'Afrique subsaharienne, et c'est moins le cas des Turcs. En fait, ce qu'on voit avec les Turcs, c'est qu'il y a un blocage de l'intégration des Turcs en général. On le voit par la fécondité des femmes, on le voit par l'accès des femmes à l'enseignement supérieur. Avec les subsahariens, c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas de dynamique politique de blocage, il n'y a pas de volonté de blocage. Par contre, on part d'une donnée, d'une certaine manière, d'un acquis qui est très éloigné de la norme française.
On va s'intéresser aux trajectoires. Alors, il y a une trajectoire sociale pour de nombreux musulmans. 10% comme vous, bac plus 5, vous c'est encore bien davantage.
Oui,
le tiers, bac plus 2.
Et c'est important parce que là aussi, ça va complètement à l'encontre de l'image qu'on a des musulmans. En fait, on pense que les musulmans, ce sont leurs parents et leurs grands-parents arrivés dans les années 50, analphabètes pour la reconstruction de la France. Sauf que, en fait, la France a fait son boulot, et eux aussi. Et quand on compare le destin social des enfants d'immigrés, là on regarde les immigrés, pas les musulmans, mais ça se recoupe très largement, on voit que le destin social des enfants d'immigrés est plutôt meilleur que le destin social des enfants non immigrés. Pourquoi ? Parce que, là aussi, à rebours de tous les clichés, il y a un investissement sur l'école qui est important. Après, ça ne marche pas pour tout le monde.
Alors, à propos de clichés, voici un extrait d'un film que vous citez dans votre livre, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Voilà une famille où arrive un Chinois banquier comme gendre. Est-il idéal? Un juif qui s'appelle David, et puis Rachid, il est avocat et le pater familias dans tout ça?
Enfin, en tout cas, je veux que vous sachiez que nous n'avons rien contre les juifs, les arabes ou les chinois.
D'autant que vous êtes français comme nous.
Absolument. Enfin, pour être tout à fait honnête, au départ, vous n'étiez pas les gendres idéaux. Hein. Vous ne le prenez pas mal, j'espère.
Non, non, évidemment.
Non, 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 non.
Et j'imagine la tête de mon père si toutes mes sœurs étaient mariées à des Auvergnats.
Le plus important, c'est le bonheur de nos filles. Si elles sont heureuses avec vous, nous le serons aussi. Bref, vous êtes tous les trois les bienvenus dans la famille Verneuil.
Merci. Je propose que nous portions un toast à la famille.
À la famille.
Alors, Papa Verneuil, c'est Christian Clavier dans le film de Philippe Chauvron. Christian Clavier, bien sûr, est gaulliste. Alors à cet instant, vous allez citer une phrase du général de Gaulle sur la dynamique d'intégration qui fonctionne encore.
Oui,
qu'est-ce
parce que
c'est la phrase ?
Si la France vient du fond des âges et que les siècles l'appellent, entre ces deux moments, il y a, dans la phrase du général de Gaulle qu'on cite toujours, on oublie le plus important, elle vit. La France, c'est une dynamique vitale. Et la dynamique de renouvellement de ces populations, d'attraction de ces populations dans un modèle commun, c'est une dynamique vitale. Et c'est ça l'histoire de France, et c'est une partie de l'histoire de France, mais c'est surtout un élément qui différencie beaucoup la France de ses voisins. Y compris d'ailleurs des États-Unis, toujours cités comme le pays du melting pot. Il n'y a pas de métissage aux États-Unis entre les Noirs et les Blancs. Ça fait 350 ans qu'ils vivent ensemble. On est toujours entre 5 et 10% de mariages mixtes. Et encore, ça vient de monter dans les deux dernières décennies. En France, il y a des Français et des Maghrébins en métropole qui vivent ensemble depuis 40 ans, 50 ans. On est à 25-30% de mariages mixtes. Pour les filles maghrébines, alors que c'est interdit par l'islam, et plus important que l'islam, par la culture arabe. Et en même temps, on a un niveau de discrimination, un niveau de Front National, etc., extrêmement élevé. Donc on a un paradoxe. Ce paradoxe, moi, je ne l'explique que par un modèle qui est un modèle original. On est dans un système d'assimilation. Ça déplaît, le mot est violent, le mot, c'est vrai, mais le processus est violent. Et d'ailleurs, il est très destructeur. Et moi, je me suis toujours interrogé sur pourquoi les pères arabes que je connais au Maghreb, avec de l'autorité, avec de la fermeté, avec de l'influence sur leurs enfants, ici, se retrouvent totalement démunis. Mais c'est parce que, très largement, les enfants sont rentrés dans l'atmosphère de la culture française et pas les parents. Et ça, ça crée un hiatus générationnel qui est très violent et très puissant.
Sauf que même dans le groupe majoritaire, vous le chiffrez à plus de 50% des musulmans qui se sont engagés dans ce processus d'intégration, la pratique religieuse a augmenté ces dernières années. Alors elle est organisée autour de la profession de foi. Français et musulmans, avez-vous dit, autour de la prière, autour de l'aumône, autour du jeûne du ramadan, le désir de pèlerinage à la Mecque, et puis d'autres traits aussi qui vont peu à peu s'inscrire. On fabrique un tissu serré de la pratique, comme si inconsciemment les musulmans s'étaient dit « il ne faut pas qu'il nous arrive la même chose aux catholiques ».
Oui, alors il y a plein de phénomènes, c'est ça qui est compliqué, il y a plein de phénomènes qui expliquent cette situation, des phénomènes extérieurs. La montée de l'islam dans les pays musulmans, qui est une réalité politique qui dure maintenant depuis un siècle. Des phénomènes aussi endogènes à la France, la montée du libéralisme, la volonté de puissance des individus, la volonté de différenciation, les difficultés aussi sociales, des milieux populaires, les difficultés des jeunes dans leur inscription, dans la dynamique générationnelle. Et tout ça se cristallise aujourd'hui autour de l'islam. Et avec un élément fondamental, qui est que l'islam est soit un projet politique global, soit une identité complémentaire. Et je pense que c'est ça qui explique la montée de la pratique religieuse.
Inflation casuistique, en conséquence, vous parliez d'individuation. Alors comment je fais? Est-ce que je dors la barbe au-dessus des draps? Est-ce que je dors la barbe en dessous des draps? Et là, on va, puisqu'il est question de cheveux, entendre une consultation, comme il y en a des quantités, à la radio. Ici, c'est la radio France Maghreb 2, donnée chaque vendredi par Mohamed Bajrafil, qui est imam à la mosquée d'Ivry et qui dispose d'une audience importante aussi par les vidéos.
J'ai des questions concernant ma femme. Elle est allée se faire coiffer chez un homme. Et elle ne me l'a pas dit, mais je l'ai découvert.
Se faire quoi?
Elle est allée se faire couper les cheveux chez un coiffeur homme.
Naam.
Voilà. Et là, je voudrais savoir quelle est votre position là-dessus.
Par rapport à quoi? Par rapport à...
Ben, est-ce qu'une femme qui va chez un coiffeur, c'est une coiffeuse à la rigueur, je suis d'accord.
Naam.
Mais pas un homme. Mais pas un homme, soit coiffé par un homme.
Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais... Ouais. Qu'est-ce que vous attendez comme... Enfin, vous souhaiteriez quoi comme conseil
Est-ce qu'elle a le droit de le faire ou vis-à-vis de la religion ou pas?
Alors,
pour moi, c'est interdit.
Vis-à-vis de la religion, non.
Oui.
Pour ceux qui disent que la majorité écrasante, voire 100% des savants musulmans, pour qui les cheveux de la femme font partie de sa nudité, non. Voilà. Donc elle n'a pas le droit pour 99,99% des savants musulmans pour qui les cheveux de la femme font partie de sa nudité parce qu'elle n'a pas à la découvrir auprès d'un homme. Mais est-ce que elle ne sort pas? Est-ce qu'elle sort voilée ou pas?
Elle sort pas voilée.
Bah alors il faut pas que tu t'étonnes qu'elle aille chez un coiffeur homme puisque c'est la même chose.
Donc c'est une réponse difficile à formuler face à un scrupule de l'individu musulman, et on fait toujours appel au stock qui ne fait que s'accumuler de décisions jurisprudentielles.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que on parle toujours du conflit entre l'islam et la République. Moi, je pense que le sujet important, c'est le conflit entre l'islam et l'islam. À l'intérieur de l'islam, avec des gens qui ont un projet politique, qui s'inscrit dans une histoire assez longue, où d'ailleurs le sujet du rapport à l'Occident est important, et une volonté de puissance, de pouvoir, qui s'est incarnée par la diffusion, par la fabrication et la diffusion de normes de comportement, avec toujours l'idée, il faut qu'on soit le plus proche possible du vrai islam. Moi, j'ai jamais rencontré le vrai islam, j'ai rencontré des musulmans. Ce que font ces gens-là, ils vont être frères musulmans, ils vont être wahhabites ou salafistes, c'est édicter un certain nombre de comportements fondés pour les wahhabites sur les premières générations des compagnons du prophète, enfin du prophète lui-même et les premières générations des compagnons du prophète, en disant la vérité de la vie, pas de l'islam, la vérité de la vie, se trouve dans leur comportement. D'ailleurs, le texte coranique est presque mis de côté au profit du recueil des dits et de la biographie du prophète. Et ça donne cette inflation normative, mais qui s'inscrit dans... Il faut vraiment que les auditeurs comprennent, c'est un marché. C'est un marché avec des gens qui viennent avec une offre très bien packagée, très bien distribuée, et qui a un intérêt, c'est on vous évite la fatigue de penser. C'est évidemment pas très démocratique comme façon de faire. Sauf que ça a du succès, parce qu'ils réussissent à dire, mais en fait c'est votre identité. Il faut que vous soyez le plus possible musulman, parce que plus vous serez musulman, plus vous serez vous-même. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, notamment en France, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui sont totalement endoctrinés, dans un contexte où leur connaissance religieuse, leur savoir religieux, leur culture religieuse est en fait très faible.
Et donc ce sont des questions sur les normes qui sont posées aux imams, avec sans cesse cette référence, il parlait l'imam d'Ivry tout à l'heure du voile, mais sans cesse la référence au halal, qu'est-ce qui est halal ou qu'est-ce qui n'est pas halal. Et vous avez vu en peu d'années cette normalisation par le halal, mais alors s'accélérer.
S'accélérer, et le halal d'ailleurs est devenu bien plus qu'une façon de sacrifier la viande, un mode de vie. C'est le way of life islamique.
La pureté dans tous les domaines.
Voilà, est-ce que tu es halal ou est-ce que tu es haram, mais c'est est-ce que ta vie est conforme à l'islam ou pas. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 40 ans, le halal n'existait pas. N'existait pas en Europe. Il y a toujours eu une façon de sacrifier la viande dans les pays musulmans qui était une façon normative traditionnelle. Mais le halal s'est développé, en fait, après la révolution iranienne, avec une volonté des Iraniens d'avoir une viande qu'ils importaient beaucoup conforme à leurs préceptes, et très rapidement, un double mélange de volonté de pouvoir politique, de contrôle, et de business. Et il y a des entrepreneurs religieux qui, en France, en Angleterre d'abord et en France, ont réussi petit à petit à imposer l'idée que le halal était un des 5 piliers de l'islam. Dans l'enquête qu'on a faite en 2016, on a 40% des musulmans qui nous disent que le halal est un des 5 piliers d'islam. C'est évidemment faux. Mais ça montre l'ombre portée, l'influence idéologique et culturelle de ces entrepreneurs qui font aussi de la politique.
Et on va maintenant poser la question de la musique halal. Alors on sait, qui l'ignore, que Diams a cessé de chanter après avoir été une vedette sur le marché.
Dans ma bulle, le fond de teint sert à cacher les cocards. L'amour est arrivé trop tard, Cendrillon fait le trottoir. Dans ma bulle, les baskets traînent sur le bitume. On a du mal à dire je t'aime car on n'a pas l'habitude. Dans ma bulle, si Vénus est victime d'adultère, bah Vénus prend un gun et deux filles à la tête. Dans ma bulle, les hommes carburent au Red Bull. On ne dort plus, on vit sous la lune, donc on ne rêve plus. Dans ma bulle, Loana baisse dans la piscine. Comment je crève d'avoir un mec qui me désire sans appétit. Dans ma putain de bulle, j'étouffe d'un manque affectif. On ne jure que par le sexy et le fictif. Dans ma bulle, j'ai le cœur qui sature. Chérie, range ta voiture et emmène-moi sur Saturne. Chérie, sors-moi de ma bulle. Paraît que la vie est belle, ouais. Paraît que la vie est belle au-delà de mes ruelles. Dans ma bulle.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
L'islam, une religion française. Nous sommes avec Hakim El Karoui, à qui je vais soumettre une nouvelle intervention de l'imam d'Ivry, Mohamed Barjafil, parce que sur le marché de la surenchère de la norme, il y a maintenant le thème de la musique. Et Barjafil a le tort, pour certains qui se situent sur son flanc le plus rigoriste, de dire que la musique, c'est possible, d'où en réponse sa colère.
Les gens ne l'écoutaient pas parce que lui, le laxiste, il dit que la musique est halal. Mais toi, on gratte un peu. Tu étais où? Mais au moment où on lisait des livres de fiqh, toi, tu étais en train de danser. Donc, il y a des gens, amolo, doucement. Surtout les jeunes, allez doucement. Oh, oh, oh. Levez le pied sur l'accélérateur. Parce qu'en fait, vous accélérez, vous allez dans le mur. Vous ne vous rendez pas compte des bêtises que vous proférez. C'est quoi le lien entre le khardaoui et la musique? Toi, t'étais où, là, il y a 2 ans, même pas, hier, t'étais où, avant de te mettre avec ta petite barbichette, t'étais où, toi? Toi, tu étais en train de faire quoi, et nous, on était où? Et les gens t'écoutent, machallah, on te suit par milliers. Mais vous, aussi, vous les jeunes, vos têtes sont parties où? Vous ne savez pas distinguer la vérité de ce qui ne l'est pas? Il suffit que je laisse une barbe et que je m'appelle Abou Machin ou Abou Bidule. Et ben, l'histoire s'arrête là. Vous, vos têtes sont où? Vous ne réfléchissez pas. Mais t'es qui, toi? CAP. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Avec tout le respect qu'on peut avoir pour un CAP de mécanique, mais c'est un CAP de mécanique. Un point à la ligne. Reste dans ta mécanique. Mais ne pars pas avec un CAP mécanique pour venir t'imposer imam ou je ne sais quoi et faire des fatwas. Mais reste dans ton domaine.
Oui, parce que toi, tu étais disque jockey ou CAP de mécanique il y a 2 ans, pendant que moi, je lisais les livres. Et puis, c'est toi qui, maintenant, es suivi sur le net.
Oui, je crois qu'on sous-estime hein, l'influence, l'audience, non pas de Mohamed Bajrafi, qui vaut mieux que son discours sur le voile de tout à l'heure, qui a quelques dizaines de millions de followers sur Facebook. Quand on le compare, par exemple, au fameux imam de Brest, alors qu'il a dit qu'il n'était plus salafiste, mais celui qui avait expliqué que si on écoute de la musique, on est transformé en singe et en porc. Bon. Il en a pratiquement autant que Cyril Hanouna. Sauf que son marché, entre guillemets, c'est 10% des moins de 25 ans en France, les musulmans. Cyril Hanouna, il parle potentiellement à tout le monde. Donc il faut voir cette dynamique qui est très puissante, d'attraction, d'un discours de rupture. Dire que la musique est interdite, c'est un discours de rupture, fondé sur des textes religieux qui sont... très sincèrement, pour une très grande majorité d'entre eux, reconstitués. D'où ça vient, hein, c'est la musique est interdite. Ça vient de propos rapportés du prophète, qui ont été recueillis, soi-disant, 250 ans après avoir été prononcés, avec des chaînes de transmission qui font l'objet d'études savantes islamiques, mais qui sont, pour le coup, celui-là, remises en cause par à peu près tout le monde. Mais quelques oulémas saoudiens, wahhabites, ont dit que c'était des hadiths qui étaient véridiques et ils ont réussi à imposer l'idée que c'était donc une norme, ça devait faire partie de la norme islamique. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a des débats, je dirais pas que c'est intellectuel, mais disons, des débats théoriques qui se passent en Arabie Saoudite, qui ont ensuite une influence directe sur la vie quotidienne dans les quartiers populaires français. Pourquoi? Parce que il y a des organisations, en l'occurrence c'est Kardawi, qui est un chir plutôt des frères musulmans, dont la pensée a été diffusée par Al Jazeera, des organisations qui sont wahhabites ou frères musulmans, en fait, peu importe, qui ont distribué, avec une organisation quasiment industrielle, une idéologie. Pour comprendre, il faut juste se dire, c'est pas un projet nouveau. Le communisme était un projet alternatif au libéralisme occidental. L'islamisme est un projet alternatif au libéralisme occidental, avec des modalités de diffusion qui sont d'ailleurs assez proches, qui sont idéologiques, mais qui sont aussi sociales, et qui fonctionnent dans le monde arabe, comme aujourd'hui en France, dans les quartiers populaires, toujours sur le même terreau, la défaillance de l'État, la chute du lien social, la nécessité de se regrouper, la nécessité de solidarité, la nécessité aussi de donner un sens à l'existence. Et dans le discours salafiste, on a des prescriptions comme ça, normatives, très quotidiennes. Et puis, il y a un grand discours eschatologique qui séduit beaucoup, notamment les convertis. Parce que on a enfin un discours pour des gens, des jeunes notamment, qui cherchent du sens. On a un discours sur les fins dernières. On a un discours sur la mort. On a un discours sur les relations qui inscrivent ces gens-là dans une histoire très très longue, avec une vision du monde.
Alors vous chiffrez, vous tentez de chiffrer dans l'islam, une religion française, le livre que vous publiez chez Gallimard, la part de la population qui est concernée. Vos chiffres ont été discutés, mais vous dites près de 30% peut-être. Concentration dans les quartiers populaires. Pour faire image, pour parler histoire immédiate, accélération de l'histoire, dans l'opinion où vous tenez chronique, aujourd'hui, vous faites la comparaison entre ce qu'était la cité de la haine aujourd'hui, le film de Kassovitz, et le même endroit aujourd'hui.
Oui, il y a deux grandes différences. Dans la haine, il y a 3 personnages, il y a un noir, un arabe, un juif. Aujourd'hui, il n'y aurait plus de juifs. Pourquoi? Parce que les juifs ont quitté les quartiers populaires, ils ont quitté Créteil, ils ont quitté une bonne partie de la Seine-Saint-Denis à cause de l'antisémitisme. Deuxième différence, il n'y avait pas d'islam. Le film date de 1995. Il n'y a aucun référentiel islamique. Aujourd'hui, il n'y aurait que des référentiels islamiques. Bon, ça montre, c'est symbolique, c'est imagé, c'est métaphorique, mais ça montre quand même la transformation, la pénétration de l'islam comme idéologie dans ces quartiers-là, et pas seulement dans ces quartiers-là, puisqu'aujourd'hui, ça va bien au-delà de ces quartiers-là. Et je vous dis, une volonté, une capacité de militantisme très puissante, qui ressemble beaucoup au militantisme communiste d'avant la guerre ou d'après la Seconde Guerre mondiale, un à l'autre sympathisant, et puis des gens ensuite qui sont imprégnés. Tout simplement parce que qui parle de religion aujourd'hui? Qui parle de normes religieuses? Ce sont les islamistes, ce sont les salafistes. En face, il n'y a personne. Et moi, ce que je dis dans le livre, et c'est pour ça que j'appelle à la mobilisation les musulmans, vous ne pouvez pas leur laisser leur religion, votre religion. Vous ne pouvez pas les laisser croire que les insanités qu'ils distribuent comme ça partout sur les réseaux sociaux, sur les antennes, sont la vérité de l'islam. Après tout, qu'ils aient envie de croire, pourquoi pas? Et franchement, nous sommes encore dans un pays de liberté en France. Mais il ne faut pas les laisser imposer leur vue. La bataille culturelle, la bataille idéologique, ils la mènent, il faut que d'autres la mènent en face.
Juste, puisque vous parlez de marché, un dernier son, extrait d'une émission de France 5, de Saléa Gardan, le marché du halal. Parce que la concentration musulmane est si importante, le groupe qu'elle représente est si attirant que ça aimante des entrepreneurs.
Depuis que les saucisses de Régis se sont converties au halal, elles sont devenues d'authentiques spécialités régionales.
Notre politique, elle a été de copier la gamme européenne en faisant du halal. Le marketing n'est pas fini. Hein.
Carmen Camps sillonne la France pour proposer ses conserves corréziennes. Aujourd'hui, elle a des rendez-vous à Roubaix.
Bonjour. Bonjour, madame Camps. Oui.
Bonjour.
Enchantée.
Vous allez bien?
Oui, très bien, très bien.
Bienvenue.
Merci. Voilà. Ça, c'est du foie gras de canard entier halal.
Donc c'est bien. C'est fait en arabe en plus, c'est bien.
Oui. Les étiquettes sont en anglais, en arabe et en français.
Nous sommes là. Les musulmans sont privés de ça.
Voilà.
Moi, c'est la première fois. Hein. J'ai jamais goûté déjà.
C'est intéressant comme réaction. Les musulmans sont privés de cela, parce que le halal, c'est à la fois un retranchement, mais c'est aussi l'accès autrement à ce qui est permis aux autres.
Avant qu'il y ait du foie gras halal, les gens très pieux, je parle des gens très pieux, quand ils mangeaient du foie gras, ils disaient bismillah. Bon, et tout le monde considérait que c'était suffisant, sachant que dans le Coran, là pour le coup, il est dit explicitement, vous mangerez la viande des gens du livre. Les gens du livre, c'est les chrétiens et les juifs. Ceux qui ont promis le halal, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit en France, on n'est plus assez chrétiens et on n'est plus assez juifs. Donc ce n'est plus la viande des gens du livre. Et c'est effectivement une façon de séparer. Séparer pour avoir une identité spécifique, pour mettre en avant son identité, ça c'est le processus d'individuation en français. Séparer aussi pour dire, attention, il y a un sujet de pureté. Il faut pas se mélanger, parce que si on se mélange, on va perdre sa pureté, et avec l'idée, toujours derrière, on va plus être suffisamment musulman. C'est pour ça que le halal est devenu un mode de vie. Bon, c'est un mode de vie, c'est un gros business. 5-6 milliards d'euros, avec des gens qui en profitent, c'est devenu un business à l'export, assez important, puisque la France est un grand exportateur agroalimentaire, et notamment de viande, et c'est aussi un business qui est pas du tout régulé. On sait qu'il y a des normes, parce qu'il y a, un débat sur les normes halal. Il y a plusieurs normes qui cohabitent, et puis il y a probablement des gens qui ne respectent pas les normes qui sont censées faire respecter. Et puis enfin et surtout, contrairement par exemple à la cacheroute, la taxe de cacheroute finance les activités du consistoire du judaïsme français. Elle est mise au service de l'intérêt général. Dans le halal, il y a 0 euro qui va au service de l'intérêt général.
Alors nous avons abordé que certains aspects de votre livre, l'islam, une religion française, il en est un qui mériterait une émission entière, c'est celle de la régulation financière, par elle peut-être, le financement de la formation des imams, le financement des mosquées serait assaini. Il est 14h, vous écoutez France Inter, la science des données dans un instant, dans la tête au carré, mais d'abord les informations.